REF, la renaissance des entreprises de France à l'air libre. Un événement organisé par le MEDEF les 24, 25 et 26 août en direct de l'hippodrome de Paris-Longchamp.
Bonjour à toutes et à tous, 15h26, nous sommes ici en direct à la REF, la renaissance des entreprises de France. Initialement, c'était l'université d'été du MEDEF. On est ici à l'hippodrome de Paris-Longchamp et on a beaucoup de chance. Il fait un temps magnifique. Voilà, on va démarrer cette grande séance autour de la francophonie. C'est un exercice nouveau pour cette année, puisqu'effectivement, avec le MEDEF, ils ont décidé de consacrer une demi-journée à la francophonie. Et comment, d'un point de vue économique aussi, mais aussi d'un point de vue culturel, les entreprises, les pays d'Europe peuvent s'allier. Ceux qui parlent le français, une trentaine de pays environ, plus de 200 millions de francophones dans le monde, c'est pas rien. Voilà, on va en parler aujourd'hui, accompagnée d'Élodie Rabel, notre journaliste reporter. Ça va, Élodie ?
Ça va très bien, Sylvain, très contente d'être ici avec vous.
Merci, en tout cas, d'être avec nous. Et alors, on est ravis, puisque nous avons une personne dont la spécialité, on va parler d'hydrogène, on va parler d'énergie, d'une filière qui, justement, ne demande qu'à se muscler autour de la francophonie, et pourquoi pas. Il est l'administrateur délégué, Chief Executive Officer, comme on dit, de John Cockerill. C'est comme ça qu'on dit, hein, John.
Exactement.
Cockerill. Voilà. Jean-Luc Morange est avec nous.
Bonjour, et comme vous l'avez dit, c'est un très grand plaisir d'assister à cette cérémonie, d'assister physiquement à cet événement, et c'est un très grand plaisir de voir l'axe qui a été mis cette année par le MEDEF sur le point de la francophonie, parce que je pense qu'on découvre le potentiel de ces pays, de cet environnement pour différents aspects de l'industrie et pour l'énergie, qui est donc le point qui nous occupe aujourd'hui.
Alors c'est très intéressant ce que vous dites, justement, parce que la francophonie, au-delà de la culture autour de la langue, c'est aussi tout un mouvement d'entrepreneurs, qui aussi a des capacités hors normes, des liens qu'ils peuvent tisser. D'ailleurs, il y a aujourd'hui des études qui démontrent que quand les personnes ont cette proximité linguistique, eh ben, ils collaborent un peu plus ensemble, n'est-ce pas, Elodie ?
Oui, d'ailleurs, un rendez-vous. C'est quand même le plus important de ce début de saison, après un an de pandémie. Vous, pourquoi avez-vous tenu à être présent physiquement ? C'est quand même un lieu d'échange. Il y a tous les grands patrons, c'est le MEDEF.
Oui, alors pour nous, c'est une opportunité importante. Qui plus est, avec les thématiques qui sont retenues cette année. Donc je rappelle que notre société, John Cockerill, société belge wallonne, donc dans la partie francophone de la Belgique, est un acteur majeur de la transition énergétique. Nous sommes un acteur dans le solaire, dans le stockage d'énergie et également dans l'hydrogène. Donc la thématique de l'énergie, l'accès à l'énergie, l'énergie renouvelable pour un certain nombre de pays francophones, alors bien entendu le continent africain, bien le continent des pays comme le Vietnam, c'est évident de par leurs besoins en énergie, de par leurs ressources aussi en énergie renouvelable, et combiner les deux est un challenge remarquable et sur lequel nous focalisons, mais aussi je voudrais mettre un accent aussi sur la nécessaire collaboration que l'on peut faire à l'intérieur de l'Europe. On parle souvent de filières d'excellence française, on parle souvent d'un axe franco-allemand, l'Airbus de l'énergie. Il y a probablement aussi un autre axe, un axe qui peut passer par la France, la Belgique, le Luxembourg. Nous sommes, nous, dans notre domaine, un des spécialistes de cet hydrogène. Nous y avons cru dès 2016. Donc à l'époque où le sujet n'était pas autant à la mode qu'aujourd'hui. Et nous avons aujourd'hui un leadership mondial. Nous sommes leader mondial de production d'électrolyseurs de grande capacité. Et je crois qu'on gagnerait beaucoup à marier les forces du dispositif industriel français et des entreprises françaises, il est réel, les forces de la Belgique, de la Wallonie, des entreprises comme Van Hall qui font des bus, les champs aéliens de la mer du Nord qui sont énormes, des entreprises comme la nôtre.
Et des boîtes comme Transdev, par exemple, qui est le numéro 1 de la mobilité en France. Coopération avec Transdev ?
Coopération, probablement, oui. Alors, coopération entre Van Hall et Transdev. La première application de mobilité dans la ville de Pau, les bus de la ville de Pau sont faits chez Van Hall.
Voilà.
Un des premiers distributeurs, je dirais, de stations d'hydrogène. La Belgique va s'équiper très prochainement de 12 stations à la taille du pays. Vous couvrez à peu près le pays. Là, c'est Colruyt, c'est un distributeur qui gère des supermarchés, des stations, et qui est en train de basculer. Donc, cette filière belge est en train de se structurer, de basculer, et marier les forces. Nous ne sommes pas forts partout, mais nous avons des points d'excellence Il y a de très bons points d'excellence en France. Vous avez Plastic Omnium qui travaille sur les réservoirs, vous avez Berthefort SIA qui travaille sur... Mais par contre, il n'y a pas de producteur de bus, il n'y a pas de producteur d'électrolyseurs tels que nous les faisons. Il y a des ressources en énergie renouvelable qui sont quand même plus limitées. Et on viendra peut-être dans ce débat. Est-ce qu'on parle d'hydrogène vert à la base d'énergie essentiellement renouvelable? Est-ce qu'on parle d'énergie décarbonée? Et à ce moment-là, on met le nucléaire. Donc, vous voyez, on peut combiner toutes ces forces. Et je pense que c'est une bonne opportunité de mettre l'accent sur ce point-là.
Élodie. Monsieur Morand, je vous parlais justement de mariage. Un constat de l'Organisation internationale de la francophonie. Si deux pays partagent des liens linguistiques, donc le français, ils ont environ 65% de plus de chances de bien travailler ensemble.
Je peux le constater.
Oui, c'est vrai. Je pense que le président du MENEF l'a souligné dans son introduction. Les contrats en anglais, les cabinets anglo-saxons, c'est une règle aujourd'hui. On est effectivement plus à l'aise pour se comprendre, pour négocier. Sachant que parfois nous parlons tous un anglais moyen. Hein, on négocie plutôt en globish qu'en english.
Bien sûr.
Et donc, il y a parfois
ou en flamand.
Il y a quand même un aspect culturel qui est aussi important. Et se comprendre plus vite, arriver à matérialiser assez plus rapidement la lecture de documents, de contrats, ça devrait fluidifier beaucoup plus les relations que ça ne le fait aujourd'hui.
Alors, vous avez parlé tout à l'heure, effectivement, de la filière qui demande qu'à se muscler avec des entreprises françaises qui sont très à la pointe des énergies renouvelables, du développement, mais qui n'ont pas forcément les mêmes ampleurs, par la taille peut-être de notre pays, par les moyens financiers aussi, les leviers qui ne sont pas les mêmes. Et on voit bien les effets très positifs de cette francophonie pour avoir, alors vous avez compris, je parle des États-Unis, je parle de la Chine, des moyens financiers, de capital développement qui sont, parce que vous l'avez rappelé, vous avez parlé des 12 stations équipées en Belgique, c'est des moyens colossaux sur le plan financier. Je voudrais qu'on revienne à John Cockerill, justement. John Cockerill, comme son nom ne l'indique pas, est une entreprise belge.
Oui, tout à fait, qui a été fondée alors en 1817.
John Cockerill, quand même.
1817, par un Anglais qui avait fui le blocus de. À l'époque, on était en pleine guerre napoléonienne, rappelons-nous. Et donc, il a fondé cette société. La Belgique n'existait pas. Notre société est plus ancienne que la Belgique. Et c'est une société qui a fêté ses 200 ans en 2017. Et vous pouvez supposer que si nous sommes toujours présents et en fort développement après 200 ans, c'est que nous avons su nous réinventer. Nous avons eu un passé très longtemps lié à la sidérurgie. Aujourd'hui, nous avons une part majeure de notre activité qui est dans... je dirais les énergies renouvelables.
En chiffres, John Cockerill.
En chiffres, c'est 1,3 milliard de chiffre d'affaires, c'est 6 000 collaborateurs, dont 1 800 en France. 1 800 en France. Donc nous sommes déjà un acteur français.
On le dit pas beaucoup, ça, c'est drôle.
Oui, parce que nos acteurs sont un peu disséminés à travers le territoire.
Faut venir nous voir plus souvent, Jean-Luc, à Radio Emo et à Territoria, justement pour parler de votre filiale. Alors on va revenir sur. Alors. C'est moins drôle parce qu'effectivement, c'est compliqué. Le 8 mai exactement, 2020, à deux endroits de la planète, le rapport entre la chaleur et l'humidité était tel que la planète est devenue hostile à l'homme. Vous le savez, c'est dans le sud de l'Arabie Saoudite et au nord du Pakistan. C'est la TW, vous savez, au rapport entre. Alors, c'est intéressant parce que ce phénomène qui a été observé par les spécialistes est unique en son genre parce qu'il a duré un peu plus de 2 heures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je rappelle simplement à nos auditeurs, qu'effectivement, le rapport entre la chaleur et l'humidité fait que la chaleur, la transpiration que dégage le corps humain permet d'évacuer, en fait, l'impact de la chaleur. Là, c'était pas possible, donc dégénérescence des organes vitaux. Bref, on a une planète hostile. Est-ce que c'est un signal qui nous oblige, Jean-Luc Morange, de toute façon, il n'y a plus de débat, la filière hydrogène, les énergies renouvelables, elles sont nécessaires. Est-ce que vous y croyez, vous, à la neutralité carbone en 2050? Est-ce qu'on arrivera à réduire le taux d'émission à 1,5 degré, comme c'est prévu par les accords de Paris à la COP21, tel que ça avait été défini? Ou est-ce que, quand on lit le rapport du GIEC, et vous l'avez lu aussi, comme moi, comme tout le monde,
alarmiste.
Franchement, j'ai flippé. Et je me suis dit, c'est cuit, c'est pas réversible. Parce que quand vous lisez le rapport du GIEC, je l'ai peut-être mal lu, mais
Non.
Voilà, mais c'est bon. La maison brûle, comme dirait Jacques Chirac, oui. Mais ça
Jacques,
brûle encore.
Mais Jacques Chirac l'a dit il y a de nombreuses années, oui. Je pense qu'à l'époque où il l'a dit, il n'était pas beaucoup cru. Non, je crois que vous avez mentionné ces événements. Nous avons, nous, en Wallonie, été tout très sévèrement touchés par des inondations au milieu du mois de juillet, comme en Allemagne, catastrophe, 42 morts. Vous avez vu les feux en Grèce, en Turquie, dans le sud de la France. Absolument. Vous avez vu les températures extrêmes du sud de l'Espagne. Je crois que c'est un fait. Et moi, j'y crois en tant que citoyen, j'y crois en tant que grand-père. J'ai deux petites filles et je me dis il ne faut absolument pas leur laisser
avec
le monde.
Avec l'expertise que vous avez, Jean-Luc Morand,
et j'y crois en tant que chef d'affaires.
Vous êtes au courant de tout. Vous maîtrisez parfaitement le sujet. On va y arriver pour les générations futures, pour vos enfants, vos petits-enfants.
Je pense qu'on va y arriver. Et moi, je suis en droite ligne la théorie de Bertrand Piccard. Je pense qu'on peut arriver à avoir, avec les technologies qui sont présentes actuellement et qui vont se développer, on peut arriver à avoir un monde qui continue à se développer, pas forcément un peu plus frugal, ça c'est certain, mais je crois que le débat n'est pas entre arrêter la croissance, mais on peut avoir une croissance beaucoup plus frugale avec des technologies qui sont, je dirais, quasiment matures. Il manquait quoi ? Une volonté politique ? Je crois qu'elle est là. Nous avons eu, nous, une grande interrogation au mois d'avril 2020 si notre stratégie basée sur énergie renouvelable, sur économie d'énergie, sur des investissements industriels beaucoup plus pertinents, n'allait pas être balayé par tous ces plans de relance en disant la priorité c'est de relancer l'économie, la priorité c'est de maintenir de l'emploi et la priorité c'est de ne pas creuser les déficits.
C'est compatible selon vous, parce que vous avez l'air de dire que nous avons les outils, mais avons-nous suffisamment de volonté politique, avons-nous déjà assez de lois et de consensus à travers les pays? Parce que la France ou la Belgique ne peut pas agir tout seul sur le reste de la planète.
Je crois qu'il y a eu quand même un mouvement, et donc en juin, les plans de relance qui sont sortis n'ont pas fait de sacrifice au niveau de... Au contraire, ils ont même accéléré certains mouvements.
C'est vrai, là, tout à fait.
Et moi, je voudrais vous rappeler, puisqu'on est en France, rappelez-vous quand même que Nicolas Hulot, lorsqu'il était au gouvernement, il y a maintenant presque 3 ans, il sort un jour du Conseil des ministres et il annonce le plan hydrogène de la France,
oui,
ambitieux,
oui, oui,
110
absolument.
Millions d'euros.
Absolument.
Le plan hydrogène de la France, aujourd'hui, il est à plus de 7 milliards. Le plan allemand est à 9 milliards. Le plan portugais est à 7 milliards pour le Portugal. Le plan espagnol est à de l'ordre de 6 milliards. Donc on met aujourd'hui les moyens pour que ces changements se réalisent. Après, tout n'est pas parfait. On entre dans une mécanique européenne. Et donc, avec ce qu'on connaît du processus européen de validation, revalidation, accord et tout ça, et il faudrait que ce processus aille beaucoup plus vite. Mais les moyens sont là, l'appétit est là, les fonds financiers sont là.
Est-ce que les États-Unis, la Chine, qui sont les deux pays qui émettent le plus de gaz à effet de serre, qui n'ont pas du tout les mêmes aspirations, ou peut-être assez protecteurs. Est-ce que ce mouvement... Parce que dans ce que nous disons, on parle de la planète. La planète est indivisible. Chine, États-Unis, Europe, même combat. Est-ce que vous, dans votre métier, vous êtes un peu globe-trotteur aussi, vous voyagez beaucoup, vous les connaissez tous, est-ce que vous sentez un consensus, une vraie prise de conscience? Parce que j'ai lu encore un dernier rapport justement sur les émissions de gaz à effet de serre à cause du charbon en Chine.
Oui, non, c'est certain.
Enfin,
mais faut n'aller pas si loin. Arrêter les centrales nucléaires en Allemagne pour faire tourner le lignite et le charbon, c'était...
Non, mais Jean-Luc, comment ça va s'arrêter quand on parle de cela? Alors nous, on en parle souvent parce que c'est notre métier d'informer. On nous répond, il y a trop d'intérêts économiques, alternatifs, et que la transition serait tellement chaotique... Où la rupture serait tellement brutale qu'elle pourrait provoquer un choc, peut-être même un choc de gouvernance.
Pour le dire vulgairement, hein, Sylvain, est-il possible de faire de l'argent tout en respectant la planète?
Je pense que c'est le cas. Je pense que c'est le cas. En tout cas, pour une entreprise comme la nôtre, c'est possible. Alors effectivement, vous êtes dans une phase de rupture. Une rupture, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez abandonner un modèle ancien. Et ça, c'est douloureux.
C'est schizophrénant.
C'est douloureux. Il y a des intérêts et tout ça. Et basculer vers un nouveau modèle. Alors... Je pense qu'il faut le faire rapidement, de plus en plus rapidement.
Le fameux capitalisme vert.
Oui, alors...
Vous y croyez ?
Y a de tout. Il y a de tout. Il y a des gens qui sont en train de verdir, je dirais, de façon un peu plus... leur portfolio. Bon, faudra faire un tri. Mais je pense que le tri se fait. Mais il y a des événements majeurs. Quand vous voyez que BP est condamné à la Cour européenne parce que sa politique d'investissement, quand vous voyez les banques qui aujourd'hui font l'objet d'attaques par des fonds, ça devient une réalité. Et on commence à toucher les entreprises au portefeuille. Et quand vous touchez les entreprises au portefeuille, c'est là où vous faites mal. Et donc, il y a une volonté politique.
Alors justement, est-ce que les amendes sont suffisantes ? Parce que comme ça, on nous annonce toujours des amendes qui ont l'air comme ça énormes, mais pour des structures pareilles. Est-ce que c'est vraiment dissuasif ?
Alors, je ne suis pas dans la partie réglementaire. Je vais vous mettre dans la partie business. Et avec un exemple très simple. Quand vous avez le CO2, qui est à un cours de 15 à 20 euros la tonne, beaucoup d'investissements que vous proposez, les équipements que nous proposons en disant, voilà, ça va permettre de réduire l'émission de CO2, vous avez des gens qui font quoi ? Retour sur investissement, je dois investir tant.
Voilà. Bon.
Et ça ne passe pas. Quand c'est à 50, ce qui est le cas aujourd'hui, probablement 60 demain, là, vous faites le même calcul, et comme par hasard, ça passe. Et comme par hasard, les financiers assez pragmatiques, qui n'étaient pas convaincus du tout,
bien sûr,
le deviennent. Donc, je crois qu'il faut aller vite. Parce que le rapport du GIEC nous le rappelle.
Bien sûr.
Je crois que les technologies présentes doivent nous permettre de faire... Alors, pour les économies développées, cette transition est nécessaire. Mais plus encore, elle va permettre pour des pays en croissance, parce que l'Inde a envie aussi de se développer, la Chine veut continuer à se développer, l'Afrique veut se développer, permettra d'avoir ces technologies. Alors, ces technologies, pour qu'elles se déploient, il faut deux choses. Il faut qu'elles soient... plutôt exportable, assez simple, facile à maintenir, robuste. Il faut surtout que leurs coûts économiques réduisent. Et là, on est dans l'industrie. Dans l'industrie, vous touchez assez vite les effets d'échelle.
C'est clair.
Nos premiers électrolyseurs que nous avons sortis il y a maintenant 4 ans, le prix aujourd'hui, même si on en produit à peu près 5 fois plus en quantité, a été déjà réduit par 2. Donc vous imaginez, et on rentre dans les premiers appels d'offres photovoltaïques étaient à des prix de 80, 100 euros. Aujourd'hui, c'est moins de 20. L'éolien offshore, qui était à 120, 130 euros il y a maintenant 4-5 ans, aujourd'hui, les dernières adjudications en France sont en dessous de 50. Les productions, donc cette filière, elle va se développer.
En fait, la massification permet aujourd'hui...
La massification fait baisser les coûts de revient. Et une fois que les coûts de revient, il faut, parce que ce modèle, au début, il est forcément sponsorisé, subventionné. Et à un moment, il doit trouver
Jean-Luc Morange, reparlons d'hydrogène pour conclure cette interview, pour que les gens comprennent bien. Est-ce que l'hydrogène a un impact ? Alors, on parle d'hydrogène au sens où vous allez nous l'expliquer, d'ailleurs. Un impact neutre sur le plan carbone ou pas ?
Oui, alors, tout dépend de l'électricité que vous utilisez. Bon, la production d'hydrogène par électrolyse, je crois que nous l'avons tous fait, je crois que c'est en quatrième. Bon, on prend de l'eau, on fait l'électrolyse. D'un côté, on sort de l'hydrogène, H2, de l'autre côté, de l'oxygène. Voilà. C'est très simple à expliquer comme ça, à mettre en phase industrielle à gros volume. C'est un peu plus compliqué. Et donc, vous prenez quoi ? Vous prenez de l'eau, pas en grande quantité. Donc, on ne peut pas dire que la production d'hydrogène va assécher la planète. Bien
d'accord.
Au contraire.
OK.
Il faut de l'électricité. Ça, c'est... Bon. Alors, effectivement, si vous utilisez l'électricité produite par des centrales charbon pour faire de l'hydrogène, non. Il faut de l'électricité idéalement renouvelable. On peut avoir un débat décarboné. Donc, vous incluez le nucléaire.
Et le rapport par rapport au nucléaire, justement, puisque c'est souvent de ça dont on parle.
Si vous voulez, si vous êtes...
Il n'y a pas d'opposition entre les deux.
Non, il n'y a pas d'opposition. Si vous restez... dans la mobilité. Je pense que vous pouvez faire une transition dans la mobilité, voiture, bus, avec uniquement les énergies renouvelables. Mais le gros challenge, il n'est pas dans la mobilité, il est dans l'industrie.
Il est dans l'industrie,
il est
bien l'industrie,
sûr. Que la sidérurgie arrête de consommer du charbon, que beaucoup de pétrochimie arrête. Et donc là, il faut injecter de l'hydrogène. Il faut l'injecter en masse. Et donc, en masse, il faut donc une masse d'électricité. Et aujourd'hui, il est clair qu'il n'y a pas... Alors, ça dépend des zones. Si vous êtes au Chili, si vous êtes en Australie, si vous êtes au Moyen-Orient, si vous êtes au Maroc ou au Portugal, vous avez assez d'énergie renouvelable à un prix compétitif pour permettre cette transition industrielle.
Par rapport à quoi ? À l'industrie solaire notamment, les expositions, le fait que...
Mais si vous voulez faire ce même mouvement en France,
par exemple,
vous êtes obligé d'inclure l'énergie nucléaire parce qu'il n'y a pas assez de ressources renouvelables. C'est le cas aux États-Unis. Et aujourd'hui, on commence à voir, et donc la fondation Bill Gates, d'ailleurs, vient de valider un processus qui sont de petits EPR, de petite taille, associés avec des électrolyseurs, avec une production complètement décarbonée. Donc le débat est là.
Non, mais c'est intéressant ce que vous dites. Donc si j'ai bien compris, quelque part, l'hydrogène donc, par les électrolyseurs donc, se posera la question de la ressource de l'eau, hein, justement.
Qui n'est pas énorme.
Oui, mais qui est un vrai débat dans le monde, l'eau en tant que telle, en tant que ressource, hein, j'entends.
Oui,
bon. Et la deuxième, c'est le rapport avec l'énergie nucléaire qui a effectivement tous ses contradicteurs. Donc moi, quand je vous écoute, il y a une osmose, il y a une convergence d'intérêts potentiels entre ces deux points qui peuvent tout à fait cohabiter. C'est le cas, par exemple, qu'a préconisé la fondation Bill Gates avec les EPR, liés effectivement entre le nucléaire et l'hydrogène. Donc, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'hydrogène, c'est une alternative réelle, dans les temps qui viennent ? Parce qu'on est d'accord, hein, les énergies fossiles condamnées à moyen terme.
C'est assez rapidement, oui.
Non, mais je veux dire, la BCE dit, on est d'accord là-dessus. Une génération.
Je le pense.
Une génération. 20 ans.
Il serait souhaitable que ça aille même plus vite, pour certains. Mais effectivement, je pense que la messe est dite, le dernier sera le pétrole, quand même.
OK. 2050 passé.
Oui.
Dernière question, je m'en range, 2050.
J'espère, sinon la Terre aura brûlé d'ici là.
Alors on va essayer de se dire, pour terminer cette interview, Jean-Luc Morange, qu'en 2050, on nous aurons atteint la neutralité carbone, n'est-ce pas, Élodie ?
Keep calm and carry on, comme on dit.
Voilà.
J'espère qu'Élodie le verra, je ne suis pas sûr qu'on le voyons.
Je pense que tous les deux, on a une proximité d'âge, on va dire. Voilà. C'est plutôt Élodie qui le verra, n'est-ce pas ?
Mais
les petits-enfants, les enfants...
Si on y a contribué, je pense que nous aurons réalisé notre devoir de citoyen et notre devoir de chef d'entreprise. Et à un moment, on ne peut pas dissocier les deux.
Vous savez quoi ? C'est un vrai plaisir de vous avoir sur le plateau.
Faites-moi une promesse. Partagé.
Vous revenez nous voir à Paris, dans nos studios. On vous rappellera, je rappelle que vous êtes le CEO, hein, c'est comme ça qu'on dit, le CEO, mais je vais le dire en français, administrateur délégué. Pardon, Jean-Luc Morange, le patron de John Cockerill, comme son nom l'indique, il est belge. Voilà.
Merci beaucoup.
À très vite.
À très vite.
La REF, la renaissance des entreprises de France, à l'air libre. Un événement organisé par le MEDEF, à réécouter et télécharger sur le site et l'application radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.